Top avec Gravel et Marceau.
Midi, pile poil, Denis Gravel est en place. Salut Denis.
Yo!
Je te présente Pascal CV.
Salut!
Bonjour.
Qui a bien entamé sa décennie avec son 31 ans maintenant.
31?
Ouais. Oh, c'est dur. C'est plus comme...
Je suis usé. Usé par la vie.
Moi, me faire dire par un début de trentenaire que la vie est dure. On est des quadragénaires avancés.
Oui, mais vous étiez où, vous? Mettons, on va faire un recap.
En fin de vie.
Début trentaine. C'est pesant pour une femme, guys.
Ah, ouais.
Oh, c'est pas... C'est souffrant.
Moi, j'avais de la misère aussi.
Ouais. Puis j'ai des super amis qui m'ont dit toute la fin de semaine, on va checker tes rides, là, ça devrait commencer. Mais ils sont sérieux quand ils disent ça.
Ben non.
Vous étiez sur le party, sûrement.
Oui, absolument. Ouais. Absolument. Moi, j'étais encore sur le party. Célibataire, pas d'enfants, voyage une fois de temps en temps. Je commençais à être tanné, par exemple.
T'étais prêt à te caser?
Possiblement.
Avec des essais-erreurs.
Ouais, c'est ça. Beaucoup d'essais.
Lui, il voulait se caser. Le problème, d'erreurs. C'est les filles.
Ouais, c'est ça qui arrive. Avec lui. Il faut être deux pour ça.
Ouais, mais il faut aussi être respectueux.
Il faisait des mauvais choix.
Toi, t'avais-tu tes enfants?
Non, pas encore. Début de trentaine, mes gars étaient pas là encore.
T'es eu à quelle heure?
Ils s'en venaient. Jésus.
Le premier, mettons.
Mon plus vieux, il a 11 ans.
On ne sait pas t'as quel âge, tu ne nous dis jamais t'as quel âge.
Je peux
pas
parler.
OK. Ouais. Denis, toi?
Exactement la même chose. Ah, on a à peu près le même âge, puis nos enfants ont le même âge. Fait que j'avais 36 quand mon
on était au même
petit
party.
Gars est né. Ouais!
C'était tout le monde y passe.
C'est, on s'est décidé le même soir.
On était au même party.
C'est à soir, ça se passe.
Jusqu'à tout récemment, je pensais qu'Arthur, c'était le mien. Mais quand j'ai vu les mimiques de son père, je me disais que c'est Denis qui a gagné ce soir-là.
Regardez la face comme faux.
Hey, quelle histoire d'Olivier Teasdale qu'on a reçue assez régulièrement sur les ondes de Boulevard. Olivier Teasdale, c'est le fils de Jacques Teasdale, qui était un journaliste incroyable à Québec pendant des années, des années. Monsieur Teasdale est malheureusement décédé, puis Olivier part en guerre contre le système de santé qui n'a pas nécessairement bien servi son père. Et il a fait une publication Facebook, puis je voulais t'en parler, Denis. Lui, il dit « Le 1er janvier dernier, j'écrivais un texte sur le grave manque de dignité que mon père a subi lors de son hospitalisation du 30 juin au 16 juillet 2024 au quatrième étage de l'hôpital L'Enfant-Jésus de Québec. Il y était hospitalisé pour combattre un cancer des poumons stade 4. À la suite de mes nombreux textes et de nos nombreuses interventions, une personne du milieu a demandé à nous rencontrer pour nous parler de ce que mon père avait vécu pendant cette période. Et là, je regarde ce que la personne a écrit. Elle lui a dit que le 5 juillet, à minuit 5, son père est tombé par terre. La personne a avisé la responsable qui lui dit « Laisse-le là, il va arrêter de chialer. » Olivier dit « Mon père était incapable de dormir en position couchée, dormait assis sur le bord du lit. Cet événement nous ramène à nous questionner sur une fracture de la vertèbre, une vertèbre thoracique identifiée lors de l'autopsie dont l'origine était à ce moment inconnue. » 16h35, le samedi 6 juillet, M. Teasdale pleure encore lorsqu'on lui fait une prise de sang. Il a trop mal et rempli d'échymoses sur le bras. Il ne supporte plus rien. Je fais une demande de... PICC Line, je ne sais pas c'est quoi. On me dit qu'il a arraché une fois et qu'il n'en aurait pas d'autre. Je le refais la
demande.
C'est
un cathéter central à insertion périphérique.
Parfait. Donc, M. Teasdale, en dormant, l'aurait arraché et la personne qui était responsable a dit « On lui en fera pas d'autre ». L'autre qui s'occupait de M. Teasdale dit « Mais là, j'ai refait une demande et on m'avise de ne pas m'en mêler ». Le mercredi 10 juillet, 14h07, monsieur demande un verre d'eau. Il ne se sent pas bien. Ça, c'est Jacques Teasdale. Ouais. Le chef d'étage dit qu'il nous envoie une mise en demeure pour ça aussi. Il n'a pas eu son verre d'eau. Hey. Le jeudi 11 juillet, 13h15, j'avise que monsieur Teasdale a besoin de nouveaux pansements. 15h08, volontairement, il ne change pas ses pansements en indiquant qu'ils étaient changés. Lorsque questionné, la chef d'unité me donne la réponse suivante. Ils ont voulu nous envoyer une mise en demeure. Il mérite les soins qu'il a.
Ben voyons.
Il y avait une vengeance. Selon ce qui est écrit sur la page Facebook d'Olivier Teasdale, là, il y avait une vengeance qui était faite par des employés de l'hôpital sur M. Teasdale parce qu'il y avait une mise en demeure qui avait été envoyée.
Fait que c'est comme ça qu'on se comporte avec des personnes en fin de vie qui ont un entourage qui s'occupe d'eux autres. je trouve ça terrible si le fils de Jacques Teasdale est en mesure de prouver tout ce qu'il nous raconte et tout ce qu'il nous partage. J'allais dire depuis le décès de son père, mais déjà avant, là, on sentait qu'il y avait des choses à dire puis des choses qui le dérangeaient profondément dans ce qu'il voyait semaine après semaine. Puis ça, c'est comment on traite les gens qui s'occupent des personnes malades et des personnes en fin de vie, tu sais, qui demandent que les soins soient top-notch, ce qui est la moindre des choses. Moi, ça me fait penser à tous ceux qui meurent dans des conditions semblables puis qu'il n'y a personne qui s'occupe d'eux autres.
Je termine avec ça. Le dimanche 14 juillet, deux jours avant le décès de M. Teasdale, 11h37, on note que M. Teasdale saigne du nez et de l'oreille gauche et le chef de plateau dit au préposé qu'anyway, sa vie s'achève, donc va te concentrer ailleurs.
Ah, c'est terrible.
C'est tellement violent comme parole, comme dans la situation en plus, qui est sensible, qui est émotive, qui est difficile. C'est des gens qui vont se perdre dans des douleurs, dans des circonstances médicales difficiles, que c'est sûr, on a besoin de prouver ces paroles-là. On a besoin de prouver que ça s'est passé comme ça. Mais si ça s'est passé comme ça, ça va être un des plus grands procès, là. Si ça sera en cours de cette manière-là, les gars, ça va être un peu du jamais vu, là.
C'est dur à croire parce c'est que dur. C'est tellement violent, c'est tellement horrible comme façon de traiter de l'humain.
C'est pis déconnecté.
Ça se fait dans un endroit où on devrait avoir le plus grand taux d'humanité, d'empathie, de compassion avec des gens qui souffrent en fin de vie. Puis on devrait être rassuré qu'il y a des gens autour de ces gens-là pour s'assurer là, t'sais, que tous les besoins sont comblés puis que tous les soins sont faits. Là, ce qui semble être le cas, c'est que ça dérange quand on demande si les pansements sont changés, si on vérifie s'il y a eu ses affaires et ainsi de suite. Ça semble déranger le milieu.
Ça part d'une inquiétude parce qu'on se rappelle que ce qu'ils plaident de leur côté, les Teasdale, c'est l'erreur médicale, c'est le fait que le dossier est tombé en deux cracks. Fait que c'est sûr qu'après, t'es plus anxieux, t'es plus avide de regarder comment ça se passe, d'être certain qu'on a fait les bons soins. T'sais, des erreurs médicales, on en entend à tous les jours. Si ça t'arrive, j'imagine pas à quel point tu viens stresser de la suite des choses, puis que, oui, t'as une hypervigilance, mais ça, le personnel de la santé, si tu connais le dossier, dans ma tête, je m'attends à ce qu'ils comprennent aussi ce côté-là.
Ça fasse partie de leur formation, là, tu sais.
Faut pas oublier que la famille Teasdale poursuit le CHU de Québec pour presque $1 million parce qu'il a été oublié. Il a été oublié, sa liste. On l'a oublié de lui dire qu'il avait un cancer.
C'est ça.
Ce qui fait en sorte que son cancer s'est développé avec le temps. Puis, bon, il est mort.
Mais
il est mort en bout de ligne.
Dans ce cas-ci.
T'sais, moi, Olivier, c'est pas mon ami. Là. Mm-hmm. C'est quelqu'un que j'aime bien, que je salue quand je vois ici. J'ai connu Jacques Teasdale à la télé comme tout le monde. Je l'ai jamais rencontré personnellement. Mais si j'étais l'avocat de la famille Teasdale, je dirais plus rien jusqu'au procès.
Ah ouais?
Je dirais plus rien jusqu'au procès. Parce que s'il va à la télé ou s'il va dans les stations de radio, Olivier, s'il dit quelque chose, puis rendu au procès, il dit une autre chose, on va le challenger sur sa mémoire.
Parce que là, il y a beaucoup de choses
comme quoi,
qui sont
partagées.
Comme
quoi, il y a trop d'émotions, comme quoi, il y a une mémoire qui est défaillante parce qu'il y a de l'émotion et tout ça. Ça peut lui nuire.
Ça, c'est deux pas, les gars, là. Il y a ce qu'on évoque, là, l'erreur médicale qui est, bon, jasée dans ce cas-ci. Puis la maltraitance, c'est pas la même chose, là.
Je suis ambivalent parce que je comprends la volonté de partager les injustices que son père a subies avant de mourir, tu sais, puis de donner le plus de détails puis d'informations possibles pour être cru puis pour que les gens soient convaincus. Mais en même temps, en faisant ça, tu te retrouves à faire le procès une fois avant le procès, puis tout ce que tu dis peut être retenu contre toi dans un contre-interrogatoire.
C'est clair, ça va être écouté, clair, ça va être lu.
Ouais.
Puis tous les renseignements qui vont être donnés à l'extérieur du procès, tu vas donner énormément de temps aux avocats pour se préparer.
Oui, puis la personne qui a partagé ces témoignages-là, qui sont sur les réseaux sociaux, ben cette personne-là va être appelée à témoigner puis sortir de l'anonymat. Sans ça, tout ça va tomber caduc, là. T'sais, parce que là, ça part d'un témoignage. Faut que cette personne-là devra aller témoigner de tous ces faits et gestes-là. Il y a des gens qui devront être nommés aussi. C'est un parcours du combattant. Évidemment, ça ne ramènera pas M. Teasdale, mais c'est un récit triste. Parce que derrière un récit comme celui-là, où il y a des membres de la famille qui sont là jusqu'à la fin, Il y a tellement de personnes dans des circonstances similaires qui sont abandonnées, qui sont laissées à des soins peut-être équivalents à ceux qui nous sont racontés là-dedans. C'est beaucoup de solitude. Il n'y a personne qui veut mourir de même. Je vais aller plus loin. Il n'y a personne qui mérite de mourir comme ça, tu sais. À se faire traiter comme un tas de marde en attendant que tu arrêtes de respirer.
T'sais. C'est ça. Puis tu sais, c'est tellement en dehors de notre champ de compétences quand on est à l'hôpital avec notre être aimé. Puis là, ben, tu as des spécialistes qui viennent autour. Puis là, ben, à un moment donné, toi, il faut que tu ailles te coucher. Tu vas te coucher, tu dis, je les laisse entre bonnes mains. Je pense que 99,9% des gens qui sont dans les hôpitaux, ils sont pour la bonne raison. Mais de voir qu'il y aurait eu de la maltraitance volontaire, tu sais, ça rassure en rien les gens qui sont dans les hôpitaux présentement. Puis moi, à un moment donné, il y a eu des gens qui ont eu un manque de délicatesse à mon égard. J'étais très jeune quand mon père est décédé. Puis mon père est rentré à l'hôpital pour un mal de tête. Mon père, c'est un entêté, c'est un têtu. Je sais que ça te surprend, Pascal. Mais
la pomme, l'histoire, la connaissez-vous?
C'est un mal de tête qui était hyper persistant. Puis à un moment donné, il a dit, OK, c'est beau, je m'en vais à l'urgence là, parce que ça passe pas. Puis visiblement, si ça va pas, je commence à faire énormément de fièvre. Il est sorti de son char exactement à cet hôpital-là. Puis il s'est écroulé dans le stationnement. Ils l'ont pris, ils l'ont rentré à l'urgence, ils l'ont mis sur une civière. Puis à partir de ce moment-là, tout son corps a commencé à être défaillant. Le cerveau, il fonctionnait plus comme faux. Les reins fonctionnaient plus comme faux. Les poumons, ça fonctionnait plus comme faux. Le foie fonctionnait plus comme faux. Fait que c'est probablement un virus qui est rentré à quelque part puis qui a commencé à faire sa job de destruction à l'intérieur du corps. Mais moi, j'étais jeune. Mais j'étais quand même assez lucide. Je disais, t'es peu, c'est mon père. J'ai besoin de savoir si moi, je pourrais être susceptible de développer ce que lui a vécu. Mais c'est un virus qu'il n'était pas capable d'identifier au moment où il m'en parlait.
Ouais.
Puis on dit, on va faire des analyses, mais visiblement, il y a quelque chose qui se passe dans son corps qui fait en sorte qu'on doit le mettre sur un respirateur artificiel et tout ça. J'ai dit, OK, parfait. Puis, mais quand il est décédé, moi, je voulais qu'il y ait une autopsie. Puis on dit, ils trouvent rien. On n'a rien trouvé.
Ben là...
Puis là, ben, j'étais jeune, fait que tu comprends, je me suis pas battu, mais j'aurais aimé ça, moi, qu'il fasse...
Tu sais même pas si t'as des droits à ce moment-là.
Ben non, c'est ça. J'aurais aimé ça, moi, qu'il fasse toute l'enquête nécessaire pour savoir si moi, je serais susceptible de l'avoir ou si mes enfants seraient susceptibles de l'avoir, ce que mon père a eu. Ben, mon père est passé là-dedans, dans les statistiques. Il y a probablement eu un virus, on sait pas c'est quoi.
En date d'aujourd'hui, t'en sais pas plus
non.
que ça. Il y a jamais personne qui t'a appelé.
Ben «
Hey, Monsieur Marceau, finalement, on a reçu des résultats de quelque chose, puis finalement, c'est ça qu'il y avait. »
Puis tu sais, la job d'un médecin, là, c'est raide en sacrement quand faut t'annoncer la mort de quelqu'un à ses proches.
Ça doit être terrible.
Mais c'est encore plus raide quand la personne n'est pas décédée, puis c'est toi qui dois prendre la décision à savoir si tu retires l'appareil. Puis moi, on me dit, avec la blonde de mon père, on me dit, l'appareil, ça fait 2 semaines qu'il est branché sur monsieur. On va en avoir de besoin pour les autres. Ce serait le temps de penser à le débrancher.
En sachant pas ce qu'il y a.
Fait qu'il savait pas ce qu'il y avait. Tous ses organes étaient en train de lâcher. Fallait retirer le seul appareil qui le gardait en vie. Puis son cerveau était correct là, à ce qu'on nous disait.
Sachant pas ce qu'il y a, c'est encore plus difficile de prendre une décision dans le contexte parce que tu sais pas si tu peux revirer la situation de bord ou pas. Tu es dans le flou total. Tandis que la question, aussi sensible et difficile soit-elle, à savoir est-ce qu'on débranche quelqu'un après 2 semaines, là, moi, c'est plus facile. J'étais pas dans cette pièce-là.
Ouais.
Mais est quand même très importante à discuter avec nos proches en ce moment.
Mais
tu n'as
pas le
bien,
choix
mais...
de t'en remettre au médecin.
Mais ça n'a pas de sens, mais toi, tu ne savais même pas
le médecin, il n'avait pas mes connaissances. Ben, en fait, il avait mes connaissances, mais moi, je n'avais pas ses connaissances.
C'est ça.
Fait que j'ai dit, ben, écoutez, si vous jugez qu'il faut retirer l'appareil pour le donner à quelqu'un qui pourrait survivre, allons-y.
À posteriori, est-ce que tu regrettes?
Ben non, parce que c'est ce qu'on m'a dit de faire. T'sais, moi, je me suis fié sur le médecin. Là. J'avais pas de raison de douter du médecin. Puis encore à ce jour, je pense que c'est la bonne décision qu'on a eue. Mais ce que je voulais, moi, c'est de savoir de quoi il était décédé.
Mm-hmm.
Fait que j'ai toujours resté avec ça dans la tête. Tu sais, mon père est décédé, puis là, je me suis dit, attends un peu, là, mon père est décédé quand il avait 50 ans pile, 49.
C'est indiscret de te demander, toi, t'avais quel âge?
Ça fait 2003.
Mais on n'a pas ton âge.
2003 qui est décédé.
OK.
2003, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je connaissais rien.
Est-ce qu'on était en mesure de dire il n'y a aucune chance qu'il revienne?
C'est super important,
sachant
ça.
En sachant pas ce qu'il y avait, est-ce qu'un médecin t'a dit c'est tout ce qui reste à faire, il n'y a pas d'autre scénario,
va
il va rester dans cet état-là? On n'était pas en mesure de dire
moi, il
ça.
M'avait défilé tous les organes qui ne marchaient plus, là.
Mm-hmm.
puis que le respirateur artificiel devait aller à des gens qui en aient besoin.
C'est pas une réponse.
Toi, tu dois prendre la décision de le laisser partir ou pas.
C'est pas une réponse.
En sachant pas ce qu'il y a, je trouve ça inacceptable.
Quand on avait demandé une autopsie, ils nous avaient dit non.
Ils avaient dit non. Est-ce qu'on peut refuser ça?
Ou exiger de le faire pareil? Ouais. Parce que, avez-vous pensé...
Au pire, au privé.
Avez-vous pensé poursuivre? Je veux dire, est-ce qu'il y avait une intention de dire, y a-tu une erreur médicale? Faut-tu vérifier? Non, c'était pas ça, là.
Non. Ben, tu sais, dans la douleur, vous avez abdiqué. Tu penses pas à poursuivre, puis tu fais confiance au médecin. Je répète, là.
Mais t'étais tout jeune.
On a toutes les raisons du monde de faire confiance au médecin. Ces gens-là ont des connaissances qu'on n'a pas.
Exact.
Fait que, tu sais, quand ils te défilent tous les organes qui marchent pas, tu sais, c'est.
Mais il y a quand même un « je le sais pas », moi, qui me déstabilise profondément. Là, je veux dire, tu racontes ça, puis je me dis, voyons, c'est pas logique.
Ça te hante-tu?
Dans le cas de M. Teasdale, ça m'a hante plus. Ça me hante plus, mais j'aurais aimé savoir de quoi il était décédé.
Je comprends, donc.
Ouais. Pour moi, puis pour mes gars, là, pour ta descendance. Là. Tu sais, notre collègue Jordan qui est décédé.
Oui.
Bon, il y avait un problème au cœur. Mais lui, il est décédé, il a un problème au cœur. Son frère et sa mère, suite au décès de Jordan, sont allés se faire vérifier, puis ont dû se faire opérer, de ce que je comprends, là, parce qu'il y avait ce même problème au cœur-là.
Okay.
Fait que moi, si j'avais su de quoi lui était décédé, j'aurais peut-être pu me faire vérifier.
Prévenir d'une façon ou d'une autre.
Y a-tu quelque chose que moi, je pourrais faire qui me donnerait pas le résultat que lui a eu? Fait que dans le cas de M. Teasdale, c'est au même hôpital, là. Puis je le sais des fois que c'est pas évident là, pour eux autres parce qu'ils travaillent avec des gens qui se plaignent constamment, qui ont mal partout.
Puis ça ira pas en s'améliorant parce qu'on est de plus en plus nombreux à vieillir. Ils vont avoir de plus en plus de jobs. Ils vont probablement être de plus en plus bougons puis bardasseux justement parce qu'ils sont débordés d'ouvrages. Les perspectives en regardant en avant sont pas encourageantes. Puis encore une fois, derrière une histoire comme celle de M. Teasdale, il y en a combien qu'on sait pas puis qu'on saura jamais parce qu'il y avait personne autour d'eux autres les dernières semaines, les derniers mois, puis de quelle façon ils ont été traités dans ces bouts de temps-là.
Puis il y en a qui étaient tout seuls, qui n'avaient pas de famille aussi.
Ah oui, ah oui.
Il y a plein de points là-dedans. Il y en a un qui me fait penser à mon amie qui est en santé, elle a travaillé en cardio, puis elle a failli quitter son emploi. C'est une des plus grandes passionnées que je connais de la santé. Là. Honnêtement, après son travail à cœur, elle est allée chercher des formations supplémentaires parce qu'elle aime ça. Elle tripe sur le patient, puis elle s'est mise à engueuler un de ses collègues récemment. Un étant, je dis pas c'est une fille ou un gars, mais collègue, là. Parce que là, il y a un... Je vais aller très rondement. Il y a quelqu'un qui est arrivé d'un autre hôpital, dans son hôpital, puis elle s'est rendue compte qu'il y avait eu négligence, mais aberrante, là. Négligence visible, négligence qui a rempiré des cas, négligence que n'importe quelle personne qui travaille en santé aurait dû voir. Elle s'est mise à se poser des questions. Pourquoi cette personne-là arrive dans un état aussi lamentable et souffrant quand tout ça était possible de ne jamais arriver? Quand tu es en santé, c'était évident. Ça ne prend pas 3000 formations supplémentaires. C'était évident ce que tu avais à faire. Puis elle s'est dit, là, moi, il faut que j'aille au fond des choses. Ce n'est pas ma job. Je ne suis pas enquêtrice, mais il faut que j'aille au fond des choses. Qui est passé dans cette chambre-là? Pour quelle raison ça n'a pas été traité? Qui a fermé les yeux et aussi pour quelle raison? Est-ce que la personne n'avait pas le temps? Si oui, il faut que ça monte beaucoup plus haut que la personne qui a mal fait ses soins, soit les gestionnaires, les gens du plancher, le gouvernement même. Pourquoi est-ce qu'on manque de temps pour qu'une personne, son état se diminue comme ça puis devienne extrêmement souffrant et donc change d'hôpital parce que c'est rendu une urgence? Puis ça, ça ankylose encore plus notre système de santé. Puis elle dit l'autre affaire, si jamais c'est humain, là, c'est la personne qui a mal fait son travail, il faut que cette personne-là se fasse rincer à un point, qu'elle comprenne que si c'était n'importe qui de sa famille ou de ses proches, elle voudrait que soit elle-même passe dans la chambre en donnant les prodiguant les soins adéquats. C'est tellement choquant parce que c'est une situation. Puis moi, si je ramène ça à Teasdale, je me dis, il n'y a personne qui a eu l'indécence, si vous permettez le mot, d'être tellement fâché que de réprimander ses collègues puis commencer à poser des questions sur l'attitude et autres n'était pas possible.
Mais c'est peut-être la peur de se faire taper dessus à l'interne. C'est la raison pour laquelle cette personne-là aurait parlé dans l'anonymat à Olivier Teasdale. Mais tu sais, je le répète, là, tu sais, moi, vu qu'il y a une poursuite d'un million de dollars sur cet hôpital-là, je dirais à famille Teasdale, gardez vos informations pour vous, puis gardez ça pour le procès, parce que tout ce que vous allez dire là va être rapporté dans les médias, puis ça va être écouté par les avocats, bien entendu.
Puis bonne chance dans le parcours.
Exact. Lâchez pas. Est-ce que tu es excité par les élections fédérales?
Pas encore, là, mais là, ça part tranquille, là, on va se le dire. Mais je demeure convaincu que dans les 4 prochaines semaines, on va avoir du fun. On va avoir du fun à suivre la campagne.
Quel genre de fun, Denis? Dis-nous.
Ben, il y a un enjeu majeur, celui de Donald Trump, celui de la guerre des tarifs. Puis est-ce que les... Tu sais, parce que, bon, tu vois que le Bloc québécois a décidé, parce qu'ils peuvent pas faire autrement, ils continuent de mettre le Québec à l'avant-plan. Moi, dans ma tête, c'est un no-show poliment pour les souverainistes, les fédéralistes. C'est des gens qui n'ont plus d'importance dans le débat actuel parce qu'ils prendront pas de décision et ils ont aucune influence. Je vois un peu le NPD de la même façon. C'est une lutte à deux. C'est une lutte à deux et c'est une lutte à deux chefs. Parce que les gens qui se présentent en région, là, partons de notre région, nous autres, la région de Québec, la capitale nationale. Bonne chance pour faire du chemin avec des enjeux régionaux là. Trump a pris en otage la campagne électorale du fédéral, puis c'est probablement lui le personnage, encore une fois, qui va prendre le plus de place.
C'est tout ce qui m'inquiète, c'est qu'on revive à peu près ce qu'on a vécu avec la fameuse vague orange, c'est-à-dire qu'on vote pour celui qu'on veut voir en haut plutôt que le député de notre place.
Oui, bien, il semblerait que, de façon traditionnelle au Canada, si on regarde les sondages des 40 ou 50 dernières années, ironiquement, on n'a pas le nom du chef quand on vote, mais on vote pour un chef. Beaucoup plus que pour un député, beaucoup plus que pour un candidat qui va te représenter.
Dans mon secteur Val-Bélair, j'ai vu ce matin les pancartes de Gérard Deltel.
Oui.
J'ai pas vu les autres, j'ai pas vu d'NPD, j'ai pas vu de Bloc québécois, j'ai pas vu de Parti libéral. Peut-être que ça va arriver sur les poteaux dans les prochaines heures, les prochains jours. Je sais que dans le secteur Beauport, il y a un de tes anciens collègues, Hugo Langlois,
ben
qui
oui.
va être candidat pour le Parti conservateur du Canada dans Beauport-Limoilou. Je n'avais pas entendu parler de sa candidature. Moi, je te l'ai dit la semaine passée, là, ce que j'entendais encore, ce qui résonnait fort, c'était du Jacinthe Varel au pied carré. Là.
Et pas occupé, Jacinthe Varel. Il me semble qu'elle a une job de jour.
D'après moi, on la voit passer dans les corridors assez souvent.
Tu doutes ça encore?
Ça résonnait, mais je te le dis, là, pour que ça résonne de même de plusieurs personnes à Québec, c'est rare que j'entendais ça. Puis là, ben, finalement, c'est lui qui a été pressenti, là, Hugo Langlois, pour le Parti conservateur du Canada. On se souvient de son père, qui
ben
était
oui.
maire de la ville de Beauport pendant des années et des années.
Jusqu'à la fusion.
Oui, c'était quoi déjà son prénom, hein, M. Langlois? C'était-tu Jacques Langlois?
C'est ce que j'ai en tête aussi.
Jacques Langlois.
Ouais.
Mais je ne savais pas que Hugo avait des intentions de se présenter au Parti conservateur du Canada. Grand bien lui fasse, là, s'il réussit à se faire élire. C'était Jacques, hein? Ouais. S'il réussit à se faire élire, ben, ce sera ça. Mais jusqu'à maintenant, il y avait un poste à Salut Bonjour, de ce que je comprends, la fin de semaine. Il faisait les chroniques web et tout ça. J'ai hâte de voir les nouvelles idées qu'il va essayer d'apporter pour la région de Québec. Là.
Et si on est capable de prendre la place avec ces enjeux-là, Yann, parce que présentement, tu as un conflit international qui va occuper 90% des discussions ou à peu près. Moi, j'ai l'impression qu'en 4 semaines, on n'aura pas le temps d'y voir beaucoup les candidats. Puis j'imagine qu'ils vont être nombreux à passer, entre autres, sur la tribune du boulevard 102-1, mais ça va être difficile de faire du chemin puis de dire, ben moi, j'appuie tel projet à Québec ou on va faire avancer tel projet à Québec, alors que le pays est en totale incertitude sur son avenir économique puis son avenir politique. Mm-hmm. C'est dur de promettre quelque chose dur comme faire pour la région de Québec présentement,
surtout
d'un bord ou de
l'autre.
Mais
oui,
ben
oui.
J'y crois-tu ce que Dumont a dit en fin de semaine?
Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit que les libéraux pourraient suspendre la campagne électorale soit le 1er avril ou le 2 avril, quand les tarifs de Trump vont être mis en place pour justement tenter de discuter avec les Américains.
Imagine que Trump, c'est un poisson d'avril.
Ben, ça n'est pas, c'est la raison pour laquelle il l'a mis le 2 avril. Parce qu'il voulait que ça soit pris au sérieux, mais c'est parce que là, on est dans les histoires un peu bizarres, mais en même temps, Mario Dumont, je veux dire, ce qu'il amène là comme point, ça pourrait se faire, mais ça laisserait peu de chance à Pierre Poilievre. Devenant le cas où ça fonctionne avec Carney, qui réussit à faire le deal avec Donald Trump, qu'est-ce qui reste des élections par la suite?
Il reste pas grand-chose.
Ah ben, c'est lui!
Puis si, et c'est le pouvoir qu'a Donald Trump présentement. Tu sais, j'écoutais ce matin la gang mettre la table, puis je pense que c'est Jeff Fortin qui a posé la question. Est-ce que Trump pourrait décider que Mark Carney, c'est le prochain premier ministre du Canada, en décidant de ne pas mettre les tarifs de l'avant, puis d'annoncer qu'il va s'asseoir avec, puis qu'il va régler le dossier? Puis la réponse, c'est oui. Ben, Donald Trump présentement, a le pouvoir de choisir le prochain premier ministre du Canada.
C'est ça que Mario Dumont semblait dire en fin de semaine. Ouais. Mais on est dans le scénario de film. Là.
Ben oui! Oui.
On est dans la stratégie politique qu'on a déjà vue pourtant dans l'histoire, par exemple.
Puis là, t'as l'autre qui est à côté. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que
ça, c'est Elon Musk qui gère.
Non, mais qu'est-ce que tu veux qu'il dise, Pierre Poilievre?
Ben, il peut dire ce qu'il veut. Je veux dire, le dossier va être réglé, puis il y aura une faveur populaire qui va aller avec ça, une vague qui va être impossible
mais
à arrêter.
Mais il y a une injustice. Tu comprends? Parce que techniquement, les deux devraient être à la course pendant 30 jours, un petit peu plus que 30 jours. Mais là, si les libéraux suspendent leur campagne électorale pour donner la chance au premier ministre du Canada actuel, le premier ministre sortant, de négocier puis de se faire un capital politique.
En même temps.
Imagines-tu ce que Poilievre va subir?
Mais il a juste à se revirer puis faire sa propre stratégie. Il peut pas payer des publicités sur YouTube.
Il peut pas négocier
Trump. Il peut pas aller négocier, mais ça, les gens, normalement, sont au courant, là.
C'est un concours de circonstances. C'est un concours de circonstances malheureux. Eh. C'est pas pour rien que les appuis du NPD ont fondu là, ce qui restait, parce que c'est de leur faute. Fondamentalement, ils ont eu le pouvoir pendant quasiment un an de faire tomber le gouvernement de Justin Trudeau. Ils sont complices de ce qui se passe présentement. Mais est-ce qu'il y a d'autres façons de faire, Yann? Puis je suis obligé de te dire que la guerre tarifaire avec les États-Unis, c'est... Excusez-moi le terme, c'est crissement plus important qu'une campagne électorale. Si t'as l'opportunité de régler ça, ça passe en priorité. Tu peux pas faire autrement. Tu peux pas. Je te dis, c'est un mauvais concours de circonstances. Puis c'est un peu comme aller jouer à la finale de la Coupe Stanley, puis ton goaler est blessé, puis il goalait sa tête. Je veux dire, ouais.
Sauf que la politique, là, c'est constamment un concours de circonstances. C'est constamment un revirement de situation par rapport au pouls de l'opinion publique. C'est une histoire de tu me fais te sentir comme ça, t'as l'air de ça, puis tu as dit un mot trop ou pas. C'est une histoire de comment c'est rapporté. Alors, personnellement, je pense qu'il y a eu une faille pour Pierre Poilievre. C'est le avant arrivée de Donald Trump, qui était quand même calculable en partie. On connaît la tête folle qu'il est. On connaît c'était quoi ses interventions économiques qu'il souhaitait mettre en place. Il l'avait dit avant même d'être élu. Je pense que l'erreur qui a été faite de la part de Pierre Poilievre et son équipe, c'est de ne pas avoir été prêt stratégiquement à toute éventualité. Tu ne peux jamais être prêt à 100%. Mais le gars surfait sur le 40 de Justin Trudeau qui était pan-canadienne.
Il se préparait pour une campagne électorale comme toutes les campagnes électorales. Puis même les... en même temps, je veux dire, Donald Trump est tellement imprévisible, c'était impossible à prévoir que son objectif, ça allait être d'annexer le Canada puis d'en faire un 51e État à grand coup.
C'est son imprévisité.
C'est un stratège libéral, Denis, là. Ouais. Tu l'arrêtes-tu, la campagne, 2-3 jours?
Si tu as une possibilité de régler le dossier, absolument, tu n'as pas le choix.
C'est ton plus gros argument électoral, malgré le fait que tu arrêtes la campagne.
Tu as un gouvernement en fonction, tu as un premier ministre en fonction, puis sa job, je pense, bien avant d'aller serrer des mains puis d'aller embrasser des bébés, c'est de régler un dossier qui menace toute notre économie d'un océan à l'autre.
Tous ceux sur les réseaux sociaux qui ont envoyé chier Mario Dumont en fin de semaine quand ils ont vu ça en disant « Voyons donc, c'est lui qui accusait, il est conspirationniste » et ça, il devrait s'excuser. Parce que si j'étais stratège libéral, là, si je vois une opportunité, une fenêtre de 3 jours où Mark Carney peut shiner à côté contre le gros orange l'autre bord, je l'envoie 2-3 jours.
Mais il peut aussi se tirer dans le pied, les gars. Là, le scénario qu'on a vu, mettons, de Trump avec Volodymyr Zelensky, là, pas dans les mêmes circonstances, mais peut aussi arriver avec Carney. Parce que Trump, il a encore à aller chercher son électorat même aux États-Unis. En ce moment-là, c'est divisé. Puis il y a bien des Américains qui ont de la misère à dire et à affirmer qu'ils le sont. Les gens qui sont en voyage en ce moment autour de vous, là, qui croisent des Américains, commencent à poser des questions sur comment est-ce qu'ils se présentent à vos amis qui sont en voyage un peu partout dans le monde. Là. Il est rendu avec une gêne X parce qu'ils sont en train de voir un genre d'économie se diviser, une récession arriver. C'est pas ce que les Américains préfèrent, vu leurs filets sociaux qui sont pas ultra ficelés comme les nôtres, qu'on soit d'accord ou pas avec nos filets sociaux. Mais en ce moment, t'as bien des Américains qui sont pas d'accord avec ça. Et Donald Trump a allé à chercher encore plus d'engouement auprès de son peuple dans des circonstances économiques très difficiles pour son propre électorat. Fait qu'il pourrait jouer un peu à la potiche avec Carney pour aller chercher un petit peu de ferveur politique auprès même de son pays.
Puis ça va rester le seul argument dans la cour de Pierre Poilievre si jamais ça arrive. Ça va être de dire « Donald Trump a peur de moi. C'est pour ça qu'il veut régler ce dossier-là au plus vite avant que j'arrive. » Est-ce que ça sera suffisant pour gagner des appuis? Pas sûr.
On va régler les choses aujourd'hui. Combien ça vaut une pute à Québec?
Elle dit le même, hein?
J'en ai aucune espèce d'idée.
C'est-tu 20$? C'est-tu 100$? C'est-tu 500$? C'est-tu 1000$?
Mais là, t'as plusieurs services et t'as plusieurs niveaux, là. Oui. Une escorte, une pute.
C'est la même affaire.
Une branlette, une masseuse. Une totale.
Masseuse érotique.
Ouais, ouais, ouais. Là, t'as plusieurs niveaux à ça, là,
avec
en partant. Là.
Happy ending. Y en a-tu qui ont
une
la réponse?
Une date Tinder qui veut juste aller souper.
Une prostituée ou un prostitué, ça vaut combien à Québec? 418-971-102 par.
Commencer à...
Ben, c'est parce que c'est juste le numéro de téléphone.
Moi,
la semaine passée,
j'ai payé X. Ouais. Merci, Richard.
Moi, j'avais entendu, il y a de ça quelques années, c'était 100$ pour une heure.
OK.
Ça a-tu du bon sens, 100$ pour une heure?
Yannick,
ça dépend.
Penses-tu que je peux te répondre?
Ça dépend.
Il me regarde.
Ça dépend de la personne, puis ça dépend du service.
300$ à 500$ de l'heure, selon... Non, c'est pas vrai.
Moi, je paye pas 100$ à l'aveugle pour une heure. Ça, je peux te le dire.
Il y a tellement des jokes à faire que je me mettrais dans l'embarras. Mais non, je veux savoir comment ça vaut, une escorte, là.
Ah,
on
ben là...
dit entre 300 et 500. Ça aurait plus de sens, hein?
Si on parle d'escorte?
Oui.
OK. C'est pas la même chose.
C'est quoi la différence?
Ben, ça dépend de ton revenu moyen. Si t'es riche, tu commandes une escorte. Si t'es pauvre, tu commandes une pute. C'est plate, mais c'est ça.
Peut-être Pascal. La qualité aussi.
La qualité?
Ben, il y a une industrie derrière les escortes pour beaucoup.
Il y en a une qui a des dents, l'autre l'a pas.
Non, mais mettons, il y a plusieurs prostituées qui le font parce que c'est leur seule façon d'aller chercher un revenu. Pour
belle,
des escortes, c'est un grand choix pour beaucoup.
Ouais. Ah, parce qu'il y en a des de luxe. Différence?
Ben, il y en a que c'est un choix de vie. Il y en a d'autres que c'est une survie. Je pense que le tarif va aussi selon ces catégories-là.
OK. Entre 300 et 500, je pense que j'ai confiance en ce chiffre-là. Là. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il y a un employé d'un centre funéraire en France qui lui donnait des services de pompe funèbre.
Oh, mon Dieu!
Et pour les familles qui allaient faire affaire avec l'entreprise de pompe funèbre, ben, ces familles-là devaient faire un chèque. Puis, il semblait trouver une façon un peu détournée de dire à la famille, ben, donnez-moi un chèque, faites-le à tel montant, mais pour ce qui est du nom en haut, n'écrivez rien, puis ça va passer quand même, on va s'organiser avec le reste. Peut-être qu'il a dit, on a un changement d'entreprise, changement de compagnie, puis l'argent va se rendre anyway, c'est pas plus grave que ça. Puis, il y a des gens qui disaient, OK, ben, c'est beau, on va y aller. Mais en quelques jours, il aurait réussi à détourner de l'entreprise où il travaillait 220 000 piastres. En quelques jours. Et lui, tu comprendras que l'histoire a été découverte, le poteau rose a été découvert très rapidement, il a révélé que c'était pour se payer une prostituée, donc pour entretenir une escorte. On dit que ça a duré plusieurs mois, mais 220 000 piastres.
Ouais, ce qui est triste là-dedans, là, c'est qu'effectivement, quand les émotions, mettons, commencent à entrer en ligne de compte,
ah, il n'y en a pas
du côté de la partie, mettons, payante, là, celle qui réclame, ben s'il y a un risque quand... Moi, c'est arrivé à quelqu'un que je connais qui, malheureusement, est tombé dans un genre de vrille, là, d'escorte. Là. Puis il a fallu qu'on pousse vers la thérapie, pis ça, là, du côté de ses proches. Là.
On me dit que c'est 300 pièces de l'heure à Québec.
T'es sûr que c'est de l'amour qui coûtait cher?
300 pièces de l'heure?
Fait que moi, je pense que ton 250 000 peut arriver. Tu sais, la personne, elle va pas dire « Arrête de me payer, j'aime pas ça ».
En tout cas, à 300 piastres de l'heure, si tu consommes beaucoup, c'est des pompes funèbres pour vrai.
Ah, oui.
Tu penses-tu qu'on pourrait gagner ça?
C'est plus cher de la cocaïne? L'addiction à la cocaïne?
300 piastres de l'heure? Absolument pas.
Cash?
Physiquement, je sais pas. Écoute.
Vous valez combien,
les gars? Je peux te charger un 40 secondes. Là.
40 secondes?
Vous valez combien, les gars, pour une heure? Avec quelle question?
Faudrait consulter les experts en la matière.
Ouais. Mm. Je suis pas sûr qu'elle voudrait de nous autres, par exemple. Faudrait aller voir du côté des messieurs, Denis. Ah, tiens, le prix vient d'augmenter.
Ça commence à écrire, là. Moi, je serais prêt à payer.
C'est vrai?
Mais tu viens de t'offrir, là, à
la science. 220 000 piastres, hey, c'est du cash en sacrifice, là.
Il l'a tout mis là-dedans?
Il l'aurait tout mis là-dedans, si on en croit ça, là.
Ah, mon ouche.
On fait pas le bon messie.
Non, non, non.
Midi 34, merci, Denis.
Salut.
Bye-bye.
Marceau, le soir.